Et c'est l'heure de nos examinateurs. Depuis le début de cette émission, ils ont suivi tous ces échanges, tous ces débats. Ils vont maintenant exercer leur droit de suite sur ce que vous avez dit ou que vous n'avez pas dit. Jean-Luc Mélenchon, nous allons accueillir Hélène Jouan et Hervé Gattegno. Voilà, bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Alors vous allez avoir le mot de la fin.
C'est rude, hein, monsieur Pujadas.
Bien sûr, c'est rude.
Ceux qui nous regardent,
c'est un rythme élevé.
Non, parce que les gens croient que c'est une partie de plaisir, hein, d'être candidat. Ils pensent que, ah ça y est, on vous voit, on est content. Non. D'abord, tout le monde, je sais ce que c'est que d'être une belle fille depuis que je suis candidat, parce que j'ai droit à tous les relous de la terre dans la rue. Et en plus, maintenant, je dois subir des épreuves, là. En voilà deux cette fois-ci.
C'est un marathon. C'est un marathon, c'est comme ça qu'on conçoit l'émission. La présidence, c'est une lourde charge. La préparation à la présidence et la campagne présidentielle,
ministre,
hein, c'est une épreuve aussi.
Ça
Hélène, c'est vous qui commencez.
Matin, ça finissait très tard le soir.
J'ai mis du rouge pour vous rassurer.
Peut-être pour séduire nos auditeurs.
Non, pas du tout. Jean-Luc Mélenchon, vous avez beaucoup joué. Vous avez beaucoup joué avec nous pendant toute cette émission. Vous nous avez beaucoup fait rire aussi. Vous avez parfois répondu à des questions qu'on ne vous a pas posées. Vous avez donné... ça m'a rappelé quelqu'un, Georges Marchais, qui répondait d'abord à la question.
Il était extrêmement habile et très fort.
On sent que vous l'avez beaucoup
joué. J'ai regardé beaucoup de... Non, j'étais mitterrandiste à l'époque, donc je ne vais pas vous raconter d'histoire.
Oui, mais
là aussi, vous avez regardé des DVD.
Oui, j'ai regardé comment s'y prenait Georges Marchais. Je reconnais que je suis passé à côté d'un virtuose à cette époque.
Vous avez dit à un moment, le front de gauche est la condition de la victoire, d'une victoire de la gauche. Très précisément, qu'est-ce que ça veut dire si par hypothèse d'école, vous n'arrivez pas en tête au premier tour et si vous n'êtes pas donc classé pour pouvoir concourir au second tour? Comment vous aider éventuellement le Parti Socialiste, si lui est retenu pour le second tour? Comment vous l'aider? Quelles conditions vous posez?
On fait une émission à France 2 ce soir. Hein.
Ah, vous avez déjà fait 2 heures pour en parler.
Oui.
Là, c'est
non,
une
mais
question.
J'ai compris. On peut faire une petite blague, quoi.
Voyons les choses. Continuons dans les blagues.
Bah, et ça marque plus les esprits, des fois.
J'ai bien compris.
Que
j'ai
les
bien
grognons.
Compris la tactique.
D'ailleurs, vous avez mis du rouge pour me rassurer.
Vous ne faites pas que des blagues.
Bah non, je ne fais pas que des blagues.
Les conditions.
Les blagues sont rarement gratuites et innocentes. Vous avez remarqué aussi en m'observant?
Oui.
Bon. Donc, voyons. J'ai dit la progression du front de gauche est une condition, je devrais commencer par dire, de la défaite de Sarkozy et du recul de Le Pen. Car c'est vrai, nous sommes sur le terrain, nous sommes empoignés avec le Front National. Pour l'instant, sur le terrain, dans les milieux populaires et tout ça, le PS, l'UMP, tout ça, il n'y a pas. Hein. Il y a dans les usines, dans les quartiers, c'est ça l'empoignade. Donc nous y sommes. Nous faisons le travail. Nous faisons le travail qui consiste à arracher les gens, à leur dire, écoutez, arrêtez, vous allez faire une bêtise plus grosse que vous, rendez-vous compte, aidez-nous. Parce que nous, on va augmenter les salaires, nous, on va régler les problèmes de la santé, nous, on va régler les problèmes de la retraite, voilà. C'est ça notre travail.
Donc votre priorité, c'est d'abord d'essayer d'éloigner les gens de Mme Le Pen, c'est ça votre priorité?
Notre priorité, c'est de convaincre les gens que nous savons comment on peut changer ce pays. Que je n'ai pas peur, que le front de gauche n'a pas peur, que personne ne me fera baisser les yeux, et que nous savons où nous allons. Voilà,
alors,
nous,
on peut. La question d'Hélène Jouan, votre réponse.
Non, c'est la réponse à sa question.
Non,
voilà ce que nous faisons.
Ce n'était pas sa question.
Et après, oui.
Et après.
Si vous n'êtes pas
après,
au deuxième
si
tour,
vous n'êtes pas. Mais on commence question. D'abord, juste comme
et
ça.
Et si Mme Le Pen ne l'est pas non plus, d'ailleurs, admettons.
Ouais. Vous savez, ni vous, ni personne ici autour de cette table ne peut dire ce que sera le deuxième tour.
C'est pour ça qu'il y avait un si.
Non.
Ni même le premier. Car la cocotte minute est en train de bouillir. Et quand vous faites. Vous regardez les statistiques des sondeurs qui ont tous les culots, vous avez l'impression que 100% des gens savent pour qui ils vont voter. Et les mêmes sondeurs font une autre enquête et ils vous montrent que la moitié des gens ne veulent d'aucun des deux favoris qui sont aujourd'hui présents.
Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez toujours pas répondu.
Mais écoutez, mais bien sûr que je réponds. Les gens sont moins bêtes que ce que vous croyez, Pujadas.
Bien sûr.
Ben oui.
Alors allez-y, on vous écoute.
Non, mais bon,
la réponse.
Les gens qui viennent voter front de gauche, ils font avancer leur tête et ils renforcent l'idée qu'on peut changer ce pays. Si je suis en tête, est-ce que les socialistes appelleront à voter pour moi?
On posera la question à François Hollande.
François Hollande dans 15 jours.
Ah, vous allez voir, c'est extraordinaire, parce que en Allemagne...
Ah, attendez sa réponse, mais...
D'accord, mais quand même, je veux dire pourquoi je pose la question, c'est pas un jeu. Je suis pas en train de m'amuser, ni de faire une blague. Parce qu'en Allemagne, ses camarades du SPD ont préféré laisser le pouvoir à Mme Merkel que de s'allier avec Die Linke, le parti frère du Front de
gauche. Vous soupçonnez ça de la part de François Hollande?
Absolument. absolument. Je veux l'entendre dire, si Mélenchon est en tête de la gauche, je me désisterai pour lui parce que ça sera un événement. Ils ne l'ont pas fait en Allemagne, ils ne l'ont fait dans aucun pays de l'Amérique du Sud.
Et vous, aucun. Vous le dites vous, évidemment pour François Hollande. Vous
moi, voilà ce que je dis. Je comprends même... Mais attendez, vous êtes là, je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'on me voit, on me repose la question. Mais moi, je me bats pour être le premier. Et je vais vous dire, si je ne le suis pas, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Depuis 150 ans, à toutes les élections, sans exception, toutes les forces politiques de gauche, toutes sans exception jusqu'à l'extrême gauche, se sont reportées, ont reporté leur voix, pas adhéré, reporté leur voix pour battre la droite sur le candidat de gauche le mieux placé. Nous l'avons fait tout le temps. Maintenant, je vais vous dire, j'ai pas envie de faire ça. Pourquoi ? Je préférerais voter pour moi au deuxième tour. Et j'ai quand même le droit de le dire. D'accord ? Et je ne veux pas parler de quelque chose qui m'afflige. Pourquoi ? Parce que si nous sommes dans cette situation, eh bien, je dis à François Hollande et aux autres, ce n'est pas après m'avoir injurié et injurié le Front de Gauche pendant des mois. Pendant des mois, avoir expliqué...
Vous n'avez pas été en reste, on l'a montré pendant l'émission.
Oui,
vous n'avez
pas été en reste sur cette... Non. Moi, j'ai des petits mots, mais moi, je n'ai jamais traité d'agent du cabinet noir de Sarkozy, jamais dit qu'il était pire que Le Pen, comme l'ont fait ses snipers. Hein ? D'accord ? Il y a quand même une différence de situation entre quelqu'un qui fait de l'humour et quelqu'un qui vous insulte. S'il fait ça et s'il croit qu'il suffira au deuxième tour qu'il apparaisse sans avoir discuté de rien avec personne et qu'il dise, comme il fait là avec les bras, hein, nous allons rassembler, pourquoi faire, on n'en sait rien, et moi je vais aller voter contre la retraite à 60 ans. Non mais vous rigolez. Et je connais des tas de gens qui vont faire la grise mine et vont dire, il ne veut pas de la retraite à 60 ans parce qu'il n'en veut pas.
Donc vous allez négocier avec lui. Mais vous lui demanderez, disons, des discussions.
Rien du tout. Je lui dirai, voilà quel est le programme du Front de Gauche. Vous voulez que les électeurs du Front de Gauche votent pour vous à 100%, alors convainquez-les. Débrouillez-vous. Mais ne me demandez pas à moi d'aller dire aux gens, écoutez, il n'y aura pas la retraite à 60 ans, il n'y aura pas, il y aura rien de tout ça, mais votez quand même pour lui, il y aura 50 milliards d'économies.
Vous pouvez éventuellement poser certaines conditions.
Pardon ?
Non, vous pouvez éventuellement poser certaines conditions.
Mais... plus j'aurai de voix et plus ils seront obligés de lire le programme. Parce que si j'en ai pas beaucoup, ils diront on n'en a rien à fiche. Mélenchon, le Front de Gauche, tout ça, les communistes et tout le reste, on s'en fout. Les syndicalistes qui sont là, on s'en moque. Mais s'ils me retrouvent avec un score à deux chiffres, ils seront obligés de regarder soigneusement. Car j'ai la tête dure, comme vous l'avez vu. Et mes camarades qui sont là derrière, encore plus que moi, parce que c'est moi le modéré dans la bande, si vous ne le savez pas.
Hervé Gattegno, c'est à vous.
Jean-Luc Mélenchon, vous faites beaucoup de blagues, certaines sont très bonnes. Il faut quand même bien écouter ce que vous dites tout le temps, parce que parfois vous dites des choses qui sont très sérieuses au milieu des blagues. Et alors, tout à l'heure,
c'est une technique, monsieur Gattegno, je vous rassure.
J'en ai noté une tout à l'heure, une de ces phrases très sérieuses, dans laquelle vous sembliez, vous, avoir finalement une idée beaucoup plus précise que tous les observateurs sur ce qui peut se passer demain et peut-être même dans cette élection présidentielle. Vous avez dit exactement, à la fin, ça se terminera entre eux et nous, et vous parliez du Front National. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par cette phrase ?
Vous avez bien écouté, vous. Hein ?
Ah oui, très bien. Puis j'ai même pris des notes. Hein.
Mais oui, mais vous avez entendu le cœur d'un raisonnement. Et vous y avez été attentif. Moi, je crois qu'il va se passer en Europe ce qui s'est passé en Amérique du Sud. C'est-à-dire que ce système, et notamment la politique austéritaire de l'Europe, hein, austérité et autoritaire, va déboucher sur un désastre. Les Grecs, naturellement, ne paieront pas leurs dettes. Le nouveau traité qui nous est proposé va tout verrouiller. C'est plus 3% de déficit supporté pour les budgets, c'est 0,5%. C'est-à-dire, comme 3%, ça n'a pas marché, on fait encore plus dur. On va retirer des milliards de l'économie. Et donc, il va y avoir une immense récession s'il n'y a pas un pays qui brise cette chaîne-là. Nous, les Français. Donc, dans cette récession, si nous ne gagnons pas, si la France ne passe pas sur un programme Front de Gauche, alors il va y avoir un énorme tumulte. Un énorme tumulte. Mais ce que je ne sais pas, c'est comment il va tourner dans notre pays. De quel côté va-t-il aller ? C'est pourquoi vous me voyez si passionné. Parce que je me dis, j'ai une responsabilité avec le Front de Gauche, avec mes camarades. Il faut à tout prix que nous soyons assez forts pour pouvoir peser dans la bataille. Vous m'avez compris.
Les deux blocs que vous dessinez, c'est extrême droite et Front de Gauche. Alors, où sont passés la droite et la gauche ?
Ils voleront en éclats. Ils voleront en éclats.
En Amérique du Sud, ce n'est pas toujours le cas. La droite, qu'on appelle classique, ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas, elle est toujours dans le paysage.
Mais vous plaisantez. En 48 heures, l'ancien système, dans tous ces pays, a été volatilisé. C'est-à-dire que, du moment que s'est fait la percée d'un seul coup des fronts de gauche locaux. Le système politique a volé en éclats. La droite a dû se recomposer et la gauche aussi.
Oui, mais elle s'est recomposée. On n'en est pas venu uniquement à une extrême droite contre vous.
Mais parce que
pourquoi dites-vous ça sur la situation française ?
Parce que le danger est plus grand en Europe, monsieur Gattegnaud. Et vous le savez comme moi. Parce que l'Europe est le berceau des pires folies de la droite et de l'extrême droite. Parce que c'est en Europe qu'on a fait cette monstruosité qui s'appelle la Shoah. Parce que c'est en Europe que ce venin a toujours été présent là. Est prêt à ressortir à la première occasion. C'est pourquoi l'Europe est un endroit de conflits terribles. La politique que mène l'extrême droite, notamment contre les Arabes, contre les musulmans, cette manière de faire aujourd'hui des Arabes et des musulmans, ce qu'autrefois l'extrême droite faisait avec les Juifs, nous mène à un désastre si nous ne l'arrêtons pas à temps. Oui, ça se finira, d'un côté avec la position de la gauche, parce que nous sommes la gauche, le front de gauche, nous sommes une gauche telle que l'histoire l'a fait naître. Et de l'autre côté, vous aurez ces fous furieux. Pourquoi ? Parce que M. Sarkozy et M. Guéant portent la responsabilité d'avoir levé la digue qui séparait la droite républicaine de la droite d'extrême droite. C'est eux qui ont fait ça et qui ont donc provoqué ce glissement de la droite des milieux populaires qui a toujours existé, car nous sommes un pays démocratique. Il y a toujours eu, au plus fort du programme commun, nous faisions 70% des ouvriers. Il en restait 30% qui ne voulaient ni de la retraite à 60 ans, ni de la cinquième semaine de congés payés par anticommunisme. D'accord ? 30%, ils ne sont pas devenus plus malins depuis. Eh bien, on est passé, à partir du moment où la droite a levé la digue, tout ça a basculé côté FN. Et à ce moment-là, il a créé une petite dynamique, a enlevé deux ou trois imbéciles qui étaient là et qui sont passés de chez nous, chez eux. Et vous, au lieu de montrer ce mouvement de la droite vers l'extrême droite, vous avez passé votre temps à mettre la lumière sur un ou deux que les gens d'extrême droite vous désignaient pour dire « Regardez, il y a un socialiste, il y a un communiste. » Tout ça est aberrant.
On vous a entendu votre réponse. Aux médias de faire peur avec l'extrême droite. En même temps, vous faites beaucoup plus peur que ce qu'on lit dans les journaux.
Eh bien, moi, je suis réaliste. Si vous continuez comme ça, c'est comme ça que ça va finir. Moi, je suis, avec le front de gauche, un homme tranquille. Je n'ai jamais aimé la gauche des catastrophes, les stratégies du pire. Hein. Je me souviens, étant jeune homme, que quelqu'un s'était réjoui du putsch de Pinochet en me disant « Ah, tu vois, maintenant, tout le monde va comprendre que seule la révolution va nous sauver. » Et moi, je m'étais fâché tout rouge. Je lui avais dit « Un imbécile, parce que nous sommes tous morts. Et donc, il n'y aura personne pour se rendre compte de rien. »
Allez, encore un point chacun, Hélène.
Un mot sur le langage, justement, vous nous avez dit votre plaisir de l'art oratoire, et vous l'avez déployé pendant toute l'émission.
Ah, merci.
Vous passez vraiment du rire, mais aussi à la diatribe, à l'invective parfois. Est-ce que vous n'avez pas peur de participer ? Vous stigmatisez beaucoup la détestation collective qui parfois existe dans ce pays et qui peut être menée par d'autres. Vous n'avez pas peur de participer à ce mouvement-là, qui peut aussi amener à ce dont vous venez de parler,
des
mouvements plus extrémistes ?
Bon, je suis un homme passionné, ça se voit, je crois, assez habile pour savoir utiliser
Vous pensez que vous n'allez jamais trop loin ?
Ça arrive, à qui ça n'arrive pas ? Mais à moi comme aux autres, s'il arrive que des fois, je l'ai dit, je mords le trait, j'allonge un coup.
Là, vous êtes repenti sur rien depuis le début de l'émission, ni sur le capitaine de pédalo, ni sur rien d'autre.
Non, non, le repentir, c'est pas trop mon truc. Alors, ça, je l'ai pratiqué quand j'étais enfant de cœur, mais cet âge-là est passé. Et voilà.
Et donc, vous n'avez pas l'impression de participer à cette violence qui existe dans
ce... je lui donne un visage, je lui donne des mots, je lui donne un programme. La colère populaire est immense. Elle est immense. Et pour moi qui suis un républicain, comme tous mes amis du front de gauche, ça me crève le cœur de voir ça. Ils ne croient plus à rien. Ils rejettent tout le monde. Et moi je dis oui, ne vous trompez pas. Mettez-leur des visages, des noms, les profiteurs, les riches, les puissants, les importants. Chassons-les. Mais pas tout par-dessus bord. La société organisée, la colère ne peut pas nous suffire. Mais la colère doit avoir un débouché positif. Moi, je suis un optimiste, vous comprenez ? J'ai la joie de vivre.
Vous appelez carrément quasiment à la guerre civile et vous dites « je suis un optimiste ».
Mais quand est-ce que vous m'avez vu ? Un type qui appelle à la révolution par les urnes, vous appelez ça quelqu'un qui appelle à la guerre civile. Mais alors, mais où vous allez, madame, là ? J'appelle à voter, moi, avec mes camarades du front de gauche. On n'appelle pas à prendre des fusils, des bâtons et des pierres. On dit on va voter. Nous, on fait notre travail.
C'est mieux de le dire, parce que vos mots, je trouve...
Posez-moi la question, je vous réponds.
Je viens de l'entendre.
Moi, je vais vous dire comment je vois l'action politique révolutionnaire. J'assume le mot révolutionnaire. Je crois qu'il y a une révolution citoyenne qui va se faire, pour des raisons très simples, très banales. Et les gens vont se mettre à s'emparer des problèmes pour les régler eux-mêmes. C'est d'ailleurs le slogan de ma prochaine affiche. Prenez le pouvoir sur vous-même, contre la peur et la résignation, dans l'entreprise, dans la cité avec la 6e République, en Europe, contre les banquiers. Prenez le pouvoir, Voilà, c'est ça notre mot d'ordre.
Bien,
alors
Hervé.
Quoi? Comment? Nous, on va le faire avec les bulletins de vote. Mais, mes chers amis, si le bulletin de vote ne suffit pas, vous vous débrouillerez avec la suite, hein. Moi, je sais ce que j'aurai à faire. Et le reste du temps, on ne va pas attendre, nous, que l'élection ait lieu.
Qu'est-ce que vous
avez à faire? Il y a les forces sociales, il y a les forces syndicales qui se battent, il y a des grands rendez-vous, il faut y être, il faut suivre nos syndicats. Voilà ce que je dis. Ben voilà, il y a la politique, le syndicat, les mouvements sociaux, et tout ça peut se combiner pour faire le changement. Moi, j'ai besoin,
Hervé, c'est à
vous. Pour faire ce programme, M. Pujadas, j'ai besoin que les gens s'en mêlent, hein, parce que si je compte que sur vous...
Là, on vous a quand même un peu permis d'en,
alors,
d'en
oui,
parler, je crois.
Hervé. Alors, ça, c'est vrai. Une question qui ne vous a pas été posée, M. Mélenchon, mais qui est au cœur de votre réflexion et de votre propos. Vous n'êtes plus fédéraliste, alors que vous l'avez longtemps été. Et je voudrais savoir si, au fond, vous avez abandonné cette idée par réalisme, parce que vous voyez qu'elle ne prospérera pas, qu'on n'y arrivera pas, ou est-ce que c'est parce que vous avez tout simplement changé d'avis sur cette question et que l'Europe vous a déçu?
Là, c'est une question très personnelle. Ce que je vais dire,
certes,
n'engage pas le Front de Gauche. Non, tout ce que j'ai dit avant, c'est le Front de Gauche pur sucre. Ce que je vais dire là, c'est une conviction. Oui, j'ai le sentiment qu'on a raté un moment historique. Et je sais à quel moment. Lorsque Joschka Fischer, alors ministre des Affaires étrangères, a proposé au gouvernement de gauche en France, nous étions deux gouvernements inouïs dans le monde. Le gouvernement de la gauche plurielle était le seul gouvernement où il y avait des communistes et des écologistes en même temps que des socialistes. Et puis, derrière nous, les Allemands gagnent et ils font une coalition socialiste et vert. Et à ce moment-là, on nous propose, on dit, écoutez, faisons un Parlement commun. Et le pouvoir de gauche a répondu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Monsieur Joschka Fischer ne représente pas les autorités. Schröder d'ici, il représente les autorités allemandes. Et à ce moment-là, que répondent les responsables français? Ils répondent, monsieur Joschka Fischer est un joueur de flûte. L'occasion est passée. Dans la tradition traditionnelle de la gauche, un homme, une voix, peu importe quel est l'homme, la personne, on va dire, parce qu'une femme, une voix, un homme, bref, une personne. Une personne, une voix. Peu importe qu'il soit italien, peu importe qu'il soit allemand, peu importe sa religion, peu importe son sexe. Et donc, la loi s'applique à tous du moment qu'elle est délibérée par tous. C'est ça le fond du fédéralisme. Mais cette heure-là est passée. Si je viens aujourd'hui et que je dis aux Français, nous allons faire du fédéralisme, ils vont dire, mais monsieur Mélenchon, le fédéralisme, il est en train de se faire. Car ce qui est en train de se faire là, c'est du fédéralisme. Et du fédéralisme austéritaire et libéral.
Hervé,
la confusion serait à son
pour
comble.
Pour que tout le monde comprenne très bien, les dirigeants de gauche dont vous avez critiqué la position à l'instant, c'était les dirigeants que vous souteniez à l'époque.
Oui.
On est bien d'accord.
À l'époque. Oui, bien sûr.
Au moment où ils ont
critiqué
Joschka Fischer, c'était la gauche que vous souteniez.
Moi j'ai dit à ma modeste
place... Donc là, on aura peut-être l'occasion d'avoir un repentir là-dessus. Vous vous êtes trompé,
non,
alors.
Non, écoutez, monsieur Gattegno, c'est sûrement pas là-dessus.
Vous êtes trompé.
Monsieur Gattegno, j'ai été le seul dirigeant socialiste, avec le courant la gauche socialiste de l'époque, à déposer un texte qui disait « Maastricht, c'est fini ». Nous l'avons voté à ma demande. Et nous avons gagné. Et Lionel Jospin a dit « pas question ». Donc nous nous sommes arrangés, comme on dit au Parti Socialiste. Mais moi, ma critique, elle a été permanente, constante. Pas un jour, je n'ai baissé mon drapeau. Alors ne venez pas maintenant me dire vous avez changé d'avis.
Bien, non, moi, je ne vous reproche pas de changer d'avis.
Je le comprends. Il y a un point sur lequel j'ai changé d'avis. Maastricht, c'était une erreur. C'est Chevènement qui avait raison. Voilà, ça, il faut le dire. Mais maintenant, nous sommes passés à autre chose. Donc moi, je ne vais pas venir faire la musique du fédéralisme en disant, vous comprenez, aujourd'hui c'est du mauvais fédéralisme, venez me voir, on va faire du bon fédéralisme. Aujourd'hui, la tâche, c'est sortir du traité de Lisbonne, mettre fin au dumping social, mettre fin au dumping fiscal en Europe, mettre du protectionnisme européen. Faisons d'abord ça, le reste viendra par surcroît.
Allez, on touche à la fin, il faut qu'on s'arrête. À chacun de vous deux, revient maintenant à la charge de dire si Jean-Luc Mélenchon, ce soir, vous l'avez trouvé bon, vous l'avez trouvé convaincant. Hélène.
Je l'ai trouvé drôle. Drôle et riant de lui. Je vous ai vu beaucoup rire à vos propres blagues pendant tout le début de l'émission. Oui, convaincant parce qu'il sait évidemment très bien défendre son programme, qu'il a montré d'ailleurs à de multiples reprises, mais qu'il a... Après, parfois un peu violent, je l'ai dit aussi. Moi, c'est quelque chose que je peux trouver choquant. Et aussi,
donc,
parfois...
Dites-moi, parce que je vais peut-être me corriger. Dites-moi, qu'est-ce que vous trouvez parce violent?
Elle vous l'a dit déjà,
oui,
dans les termes,
dit, voilà.
Dans, les gestes,
c'est ça
dans la façon de parler,
dans les termes. Je trouve ça très... Voilà. Et puis parfois peut-être mettant quasiment à équidistance les socialistes et la politique de Nicolas Sarkozy. Et je ne crois pas que ce soit ni dans votre parcours, ni dans vos gènes. Et donc on sent là plus la posture électorale.
Hervé.
Moi, je vous trouve formidable, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez un talent.
Une coda vénénome.
Vous avez un talent formidable. Vous êtes un des rares politiques qui est aussi bon à l'oral qu'à l'écrit. Il y en a de moins en moins. Et vous avez, je trouve, un très grand mérite dans cette campagne, en tout cas pour l'instant. On est à 100 jours du premier tour. C'est que vous mettez des idées sur la table. Alors certes, ce genre d'émission vous y invite, mais quand même, d'autres y sont beaucoup invités et on les entend beaucoup moins. Donc au moins, vous suscitez le débat, vous permettez qu'on se positionne. Alors, c'est vrai que vous avez cette façon de faire honneur au métier de politique, c'est-à-dire que vous cherchez le conflit en réalité, vous n'essayez pas de l'esquiver, vous le cherchez parce que vous trouvez que le conflit est productif. C'est productif vrai. D'idées, il est productif de vérité. Et de ce point de vue-là, je trouve que vous êtes un remarquable candidat à l'élection présidentielle. Ce que je dirais pour être un peu plus critique, vous y attendez, c'est que vous avez une façon de jouer, parce que vous êtes au fond un parlementariste, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez une façon de jouer sur ce qui relève du parti politique et du programme du parti politique, et de ce qui relève de la personnalité du candidat stricto sensu, vous l'avez fait, et quand ça vous arrange, de temps en temps, vous passez de l'un à l'autre, comme ça, dans un petit coup de bonneteau, assez réussi. Ce que j'ai trouvé le plus gênant dans cette émission, je vous le dis franchement, c'est dans la partie à proprement parler sur l'économie, vous avez esquivé une ou deux fois des questions qui sont quand même importantes. Alors je sais bien que c'est difficile de synthétiser à ce point-là, oui. Mais quand vous esquivez une question de François Langlais, je crois que c'était François, sur le quotient familial, en disant écoutez, ça c'est trop compliqué, je peux pas vous dire ça comme ça, et puis je vais pas courir derrière François Hollande, c'est quand même une question que, au fond, tous les Français qui vont voter dans cette élection présidentielle peuvent légitimement se poser. Vous n'y avez pas répondu. Et puis, d'une façon encore un petit peu plus générale, mais toujours sur l'économie, vous dites, discutez avec mes experts, avec les experts du Front de Gauche, et puis à ce moment-là, je vous répondrai. Moi, je pense que pour faire honneur à votre métier de candidat jusqu'au bout, vous devez répondre le plus précisément possible à toutes ces questions. Et il me semble que, pour l'instant, dans cette présidentielle, vous êtes plutôt celui qui fait le plus d'efforts en ce sens. Donc, je vous invite à encore plus d'efforts supplémentaires pour être un vrai bon candidat.
Réinvitez-moi, je vous explique la suite.
Merci. Merci à vous deux. Merci, Jean-Luc Mélenchon. C'est la fin de cette émission. Merci encore une fois d'y avoir participé. Merci. Je veux l'achever avec une pensée forte.
Il y a tous ceux qui nous ont regardés aussi, il faut dire merci.
Mais je vais les remercier. Je voulais simplement, si vous le permettez, avoir une pensée forte pour les proches de Gilles Jacquier, sa compagne Caroline, sa famille, puisqu'un avion rapatrie son corps en ce moment même en France. Merci à Gilles Bornstein et Véronique Saint-Olive qui ont préparé cette émission. Merci à Jean-Jacques Msalem qui l'a réalisé, à Patrick Ponce pour la coordination et merci surtout à vous de nous avoir suivis. Dans deux semaines, Des paroles et des actes revient avec François Hollande. On lui posera sans doute cette fameuse question. Et dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec avant-première Elisabeth Tchoungui qui reçoit Nathalie Dessay, Elise Moon, Mathilde Seigné et bien d'autres. Merci encore. Très bonne soirée à tous. Thank you.